autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Et bon début de semaine à tous les fidèles auditeurs du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Aujourd'hui, nous parlons des inondations, comment faire face aux inondations qui affectent certaines régions de la République. Plusieurs parties du pays sont touchées par les inondations et des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants ont été enregistrés un peu partout à travers le pays suite à ces inondations causées par des pluies diluviennes. Le dernier cas en date est l'inondation des camps de pêche dans les territoires de Mahagui suite au débordement du lac Albert. On signale qu'environ 4 800 personnes sont sans abri dans les territoires des Mahagui en Ituri à la suite des inondations causées par les débordements du lac Albert en début du mois de décembre. Le service de protection civile a donné ce chiffre le vendredi 10 janvier dernier lors de la présentation de son rapport sur cette catastrophe naturelle qui a débuté depuis décembre 2019. Et selon ce rapport adressé au gouvernement provincial, environ 1200 maisons sont détruites dans 45 camps de pêche dans les chefferies de Mukambo et Wangungu. Alors, il n'y a pas que ça. Lorsque nous allons du côté des Nyoki, dans le Maïndombe, plus de 100 maisons sont détruites par les eaux de la rivière Mfimi. Et bien avant cela, il y a eu plusieurs autres cas d'inondations. On a eu par exemple des inondations en Gandayala, à Kinshasa, en Sélé, où il y a eu autour de 100 sans-abri, si on peut le dire ainsi. Il y a eu également des inondations à Lukolela, à Lukala, en Banzangungu, où plusieurs personnes se sont retrouvées sans-abri. Il y a eu également des morts. On a également enregistré des inondations dans 600 maisons, voilà, dans 5 villages à Mahagui. Des inondations au quartier Ndanou à Kingabwa suite au débordement de la rivière Njili. On a eu également bien avant les inondations dans le nord et les sud Ubangi. Et 140 villages dans la province de la Tchopo ont été également touchés, par les inondations, voilà. Et à Boma également, on a enregistré des inondations. En fait, c'est un peu partout à travers le pays qu'on a enregistré des inondations qui ont causé des pertes en vies humaines et beaucoup de dégâts du point de vue matériel. Alors, comment prendre en charge les victimes de ces inondations et comment prévenir d'autres inondations? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions dans cette émission avec notre invité. Il s'agit de Monsieur François Kaluele-Voula. Il est promoteur du Centre de recherche, d'études et de prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. Vous avez des questions et des préoccupations, appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Vous pouvez aussi poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Monsieur François Kaluele, vous là, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Les inondations actuellement, c'est un peu partout à travers la République. On déplore des cas, des inondations avec des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. La première question est de savoir qu'est-ce qui est à la base de ces inondations.
Bien, merci infiniment. Primo pour l'invitation et deuxièmement pour la question. La grande préoccupation que nous avons, c'est un problème de communication sur les changements climatiques. Non seulement dans notre pays, mais en Afrique. Il y a la prévention de la NASA qui est sortie en 2007 qui prévoit au cas où rien n'était fait, que le bassin du Congo, qui comprend 11 pays, la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, comme on l'appelait, la République centrafricaine, le Soudan, donc le bassin du Congo sera inondé. Non seulement des
eaux internes. Selon un rapport de la NASA.
De la NASA.
De 2007, c'est ça?
De 2007.
2017.
2007.
2007.
Oui.
Ok.
Le bassin du Congo sera inondé. Non seulement des eaux internes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et aussi de la montée des eaux au niveau de l'océan Atlantique. Pour aller tout droit à la réponse, nous avons dans notre pays l'avantage d'avoir une cuvette. La cuvette que nous avons, c'est sous forme de casserole, pour être vulgaire si vous voulez. Mm-hmm. Donc une sorte de casserole. Donc le niveau au niveau intérieur de notre pays est plus bas que le niveau de la mer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les inondations que nous voyons dans les pays voisins, étant donné que tout ce qui vient, c'est les eaux de ruissellement, ça va finir par passer par le fleuve Congo. Quelle que soit la rivière à l'intérieur de notre bassin, les eaux, que ce soit en période normale, que ce soit en période d'inondation, la grande quantité va se déverser à l'océan passant par le fleuve Congo. Et quand le fleuve Congo est rempli, les petites rivières n'ont pas accès immédiatement, au moins à la même vitesse, pour se déverser dans le fleuve. C'est ce qui crée une sorte d'embouteillage. Et ces rivières, nous prenons le cas par exemple de la rivière Ndjili. C'est question d'aller observer. J'ai beaucoup apprécié le député au niveau de Kingabwa qui est allé voir même le chef de l'État pour lui dire ce que nous sommes en train de vivre. Ce sont les rivières chez nous qui n'arrivent plus à se déverser dans le fleuve. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que on ne sait pas se préparer au vu de tout ce qui est étudié sur le plan international pour nous éviter ce genre de catastrophes.
Donc, d'après vous, c'est dû aux eaux. Nous sommes dans une cuvette, comme vous l'avez dit, et toutes les eaux qui viennent de l'océan se déversent dans cette cuvette, et puis il y a un embouteillage.
Non, pas de l'océan. Les eaux de l'océan vont venir. Mmh. Ce sont les eaux salées. Et là, tout le monde deviendra aquatique au cas où on n'arrivait pas à construire des digues aux endroits déjà bien identifiés. Ce que nous vivons, ce sont les eaux internes, ce sont des eaux de pluie. Et il y a de fortes pluies en très peu de temps. Ce qui amène, c'est que la quantité que devrait recevoir toute l'Afrique, parce que le principe est très simple. L'eau va, du moins l'eau de pluie, va là où il y a les arbres. Et ce que nous avons comme avantage chez nous d'avoir la forêt, et aussi quelque part un désavantage parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Là, le désert avance à une vitesse de 5 km par an. Ça nous prend un étau. Le désert au sud de Kalahari et le désert au nord, le Sahara, en s'approchant de nous, ça laisse des zones désertiques. La quantité d'eau sur le plan mondial est connue. Sur les 100%, c'est 1% seulement d'eau douce qui nous revient sous forme de pluie. Et quand on devrait, il y a des millions d'années, se le partager sur toute l'Afrique, parce que les deux déserts, c'était aussi la forêt, on avait chacun une petite quotité. Et maintenant, tout se reverse au niveau du bassin du Congo, parce que la pluie cherche là où il y a les arbres et il y a la photosynthèse.
Ce qui fait qu'il y a beaucoup de, on assiste à beaucoup de précipitations dans cette région. C'est pas seulement RDC, c'est dans tout le pays
du bassin. Oui, donc nous avons l'Angola au sud, du moins au sud de notre pays. Il y a la Zambie. Vous avez suivi le Burundi. Il y a les inondations ici en Centrafrique. Il y a les inondations en Congo. D'en face, il y a les inondations. Mais tous ces pays-là sont membres de notre bassin. Et ils déversent leurs eaux dans notre fleuve.
Et d'après les informations, ce n'est pas fini. Il y aura encore des précipitations, des pluies diluviennes vont encore s'enchaîner.
Figurez-vous que c'est depuis 1881 que l'ingénieur Adam Smith, c'est un Anglais, qui avait tiré pour la première fois la sonnette d'alarme pour dire que le monde était déjà malade. La Terre était malade à cause de réchauffement climatique. Personne n'a voulu le croire. Et aujourd'hui, il y a les scientifiques, que je respecte beaucoup, vont vous dire que non, c'est cyclique. Donc, ce phénomène revient chaque 20 ans, ça revient chaque 10 ans. Vous allez voir, plus nous avançons, ce phénomène, c'est court. Au lieu de faire 50 ans, ça revient 30 ans, chaque 20 ans, et après, ça sera l'inondation et nous allons nous retrouver là-dedans.
Donc tout ça, c'est dû au changement climatique.
Affirmatif, à notre humble avis.
Bien, comment faire face maintenant aux inondations qui affectent certaines régions du pays? Vous avez dit que ça a été déjà annoncé dans un rapport de la NASA depuis 2007 que le bassin du Congo sera inondé. Voilà, on est en train de le vivre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens à vous tout à l'heure. On va accueillir Isaac qui nous appelle des Bounia. Vous voulez également participer à cette émission? Appelez déjà au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Comment faire face aux inondations qui affectent certaines parties du pays? Isaac Zakissa, vous êtes à Bounia. Simon nous appelle des Kananga. On commence avec Isaac. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, c'est les journalistes. Je salue en fait l'invité sur les plateaux. Je suis tout à fait heureux de participer à cette émission. Alors,
à Bounia aussi, il y a des problèmes d'inondation.
Ah ouais, je veux dire, c'est sérieux, hein, parce que à peine, je sais pas, mois de septembre ou octobre, on vient de vivre ça, d'une inondation qui a en fait bouleversé, on peut dire même détruit plus des ça éteint des maisons et des habitations. Et en fait, moi, je pourrais dire que parfois, nous, la population, nous avons, nous-mêmes, nous sommes des agents causaux de cette inondation. Alors, pourquoi je l'ai dit, nous regardons par exemple la ville de Bounia. Nous ne respectons pas là où il y a des rivières. Nous sommes en train d'inonder, de jeter des immondices, par-ci, par-là. Et en fait, vous allez voir, à un moment donné, ça réduit même la canalisation là où l'eau pourra passer. Alors, à l'heure des pluies, c'est difficile. Même à petite pluie seulement, vous allez voir, il y a les débordements. Alors, nous-mêmes, nous pouvons premièrement prendre la conscience de tout à fait de rageux. Hein,
il faut curer les caniveaux, c'est ça? Vous dites qu'il faut commencer par curer les caniveaux?
Exactement. Il faudra que nous puissions prendre déjà position pour arranger des caniveaux, des choses pareilles, mais pas tout à fait jeter des immondices. C'est ça ce qui crée tout à fait des choses pareilles. Deuxièmement, je voudrais poser juste une petite question au cas qui vient de passer à Maï, certainement dans des chefferies de Mokambo et chefferies de Wagon. C'est un cas et que la population même, on peut dire, la population n'a pas tout à fait, ils ne sont pas des agents causaux. Parce qu'ils ne savent, la population ne savent rien. C'était difficile de conjuguer, de savoir qu'à ce moment, il y aura les débordements des lacs. Alors, comment tout à fait les IT peuvent nous aider, hein? Comment la population pourra déjà prendre place, hein? C'est connaître déjà à quel moment, à quelle date et quel mois nous aurons, par exemple, les débordements des lacs ou bien de tous des rivières pour ne pas tout à fait encore tomber dans des choses pareilles. Parce que c'est un cas de pouvoir. Si
d'accord. Merci Isaac. Merci Isaac. On va donner la parole à Simon de Kananga. Bonjour Simon. Là-bas aussi, vous avez des problèmes d'inondation à Kananga?
Ouais, il y en a aussi, hein. Bonjour d'abord, jeudi. Bonjour également à notre invité. Les cas d'inondation. Il n'y en a pas d'exception hein, telle que vous l'avez rémunéré là. Même ici à Kananga, vous savez, quand nous traversons une période diluvienne comme ça, des pluies diluviennes, il y a toujours des inondations. Mais comme on sait de le dire, hein, parce que ce n'est pas la première fois quand même que vous invoquez ce sujet dans votre plateau, je pense il y a, je ne sais moi, deux semaines où on a encore parlé des problèmes d'inondation. Et vous savez, généralement, comme je l'avais dit cette fois-là, ce sont des gens qui habitent le long des rivières et des fleuves qui sont souvent victimes d'inondations. Mais aujourd'hui, on remarque que vous savez, même au centre-ville, loin des rivières, on est toujours victime d'inondations. Et c'est aussi causé par des constructions anarchiques. Je dis, hein, lorsque les gens construisent des maisons un peu en désordre, moi ici, chez moi, au Bianchi, à Kananga, je suis victime. Chez nous, ici, il y a un voisin qui a les toitures de sa maison, là, les eaux de sa toiture, là, nous dérangent beaucoup quand il pleut. Vous leur dites qu'ils ne comprennent pas. Ils peuvent canaliser même les eaux de leur toiture, là, même dans des citernes. Ils ne comprennent pas, les eaux débordent. Donc, les gens sont vraiment un peu déconcentrés, tout ça. Ce sont des constructions anarchiques comme ça qui font que, qu'il y ait des inondations. Et cela est posé parce que les gens ne sont pas suffisamment informés.
D'accord.
Alors, moi, je voudrais demander un peu à l'invité.
Oui.
Bon, quelles sont les mesures d'information ou de sensibilisation qu'ils ont prises pour pouvoir aider à tout le monde de savoir comment conserver les eaux de pluie pour éviter, n'est-ce pas, les débordements?
Merci. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jourdi, bonjour également bien évidemment notre invité. Vous savez, ici à Lubumbashi, nous traversons bien sûr comme bien partout ailleurs la saison de pluie. En tout cas, elle n'est pas la bienvenue ici à Lubumbashi. Il faut que je vous le dise la vérité, parce que quand il pleut ici à Lubumbashi, en tout cas, vous vous croiriez peut-être, je ne sais pas, à un village qui ne dit pas son nom, parce que il suffit. Je suis en train de me dire, même les autorités qui viennent de Kinshasa, bien sûr, les grandes autorités, quand il pleut et à cette période, il suffit d'arriver à la gare. À la gare, c'est presque au centre de la ville. C'est inacceptable, monsieur Jody. Quand vous arrivez là-bas, vous vous croiriez peut-être au fleuve Congo. Ça ne va pas. Vous êtes en pleine ville, on dirait. Moi, je suis en train de voir que la ville de Lubumbashi, bien qu'on dise que c'est la deuxième ville, en tout cas, il faut qu'on la déplace. Elle est donc, c'est-à-dire, on n'a pas prévu les problèmes de drainage, de canalisation. En tout cas, ça n'a pas été fait en amont. Alors, il revient maintenant, au jour d'aujourd'hui, à nos autorités de prendre à bras de corps cette situation et de s'y mettre. La précaution, d'abord, il faut peut-être chercher des spécialistes, des bons ingénieurs capables de tracer des routes pour nous éviter tout ce qu'on a assisté. Dernièrement, sur le boulevard Katouba, il y a eu un enfant qui est parti avec les eaux. Donc, ça veut dire qu'à ce stade, il y a une rivière là-bas qu'on appelle la rivière Lubumbashi. En tout cas, il y a eu les pluies qui se sont accumulées 3 jours durant, un mercredi, etc. En tout cas, c'était tout un fleuve, ça a débordé. Et pourtant, il y a des rivières. Pourquoi ne pas tracer des canaux pour pouvoir conduire les eaux vers les rivières qui sont là? Nous en avons ici assez. Donc, mais quand il pleut vraiment, vous n'allez pas sortir. Même en ville, vous êtes bloqué. Parer en cité, dans la cité. C'est complètement inacceptable. Moi, je me dis, la ville de Lubumbashi, il faut la déplacer. Chercher un endroit approprié et tracer des canons correctement. Et voilà, la ville vraiment
d'accord.
Est semblable.
Merci, non, Jérémy.
Je voudrais un peu terminer, monsieur,
oui.
Monsieur Jody.
Oui.
Alors, je propose maintenant à notre spécialiste qui est là avec vous.
Pour faire face aux inondations, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous?
Oui. D'après moi, il faut déjà engager des bons techniciens qui savent bien faire les choses à ce stade. Sinon, vraiment, on est en train d'assister à des gens à la perte en vie humaine. Alors, on est obligé à attendre chaque fois, on attend lorsque les pires arrivent, et alors on en intervient. Non, il faut en intervenir en amont. Et alors, tout ça, l'État doit prendre les choses à bras du corps. Commencer par instruire, n'est-ce pas, les autorités qui sont ici en province, de mettre sur pied une politique adéquate pour pouvoir, n'est-ce pas, orienter les choses. Sinon, ça ne va pas.
D'accord.
Quand il pleut vraiment, il y a même des gens dans leur maison, ils prennent les sacs, ils mettent sur leur tête. Parce qu'ils doivent sauver les sacs de farine, sinon ça ne va pas. L'eau dépasse même la hauteur du lit. C'est ce qui
d'accord.
n'est pas acceptable.
Merci Jérémy. Merci Jérémy. On va donner la parole à Lady Bokako de Mbandaka et Maître Olivier de Gbadolité. Lady Bokako, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis très content de l'émission que vous organisez par rapport aux inondations qui sont en train de détruire presque toute l'humanité. Hein. Moi, je me dis, parce que votre invité venait de l'évoquer aussi, cette question a été abordée. Il y a eu même des recherches, il y a eu des gens qui... Il y a eu une étude là-dessus, et c'est la date de 2007, d'après ce qu'il a dit. Mmh. Je voudrais savoir. Parce qu'il faut... J'ai suivi certains gens qui ont dit qu'il faut des leçons d'éducation civique. Ça, c'est vrai. Mais que fait le gouvernement? Ou que font les gouvernements des pays qui connaissent ce genre de... qui sont concernés par ce genre de situation? Et c'est ici où on voit la valeur de la recherche scientifique. Moi, personnellement, je crois que le gouvernement doit accorder une grande importance à la recherche scientifique. C'est la recherche scientifique qui peut trouver une solution par rapport à ces inondations qui ont été... des questions d'inondation qui ont été abordées depuis 2007. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. On venait de voter un budget au niveau national. Quelle est la part que notre gouvernement a, nous? Parce que nous ne pouvons pas encore parler des autres pays sans avoir abordé la question ici chez nous. Quelle est la part de cette lutte contre l'inondation? C'est une question que nous avions connue cette année à Mbandaka où je suis, monsieur Jeudi. Mais vous ne pouvez pas. C'est à côté de la résidence même du gouverneur de province. Et l'accès à la résidence du gouverneur de province était devenu impossible parce qu'il y a eu débordement des eaux. Hein? Alors, quelle est la part du budget alloué à la lutte contre ces inondations? Parce que nous assistons à la disparition de l'humanité tout entière. Et sans que les gens s'en rendent compte. Mais il arrivera un moment où tout ce que nous concevons comme projet ne sera plus praticable parce qu'il n'y aura plus d'espace. Nous n'aurons plus le temps de le faire.
D'accord, merci Lady. C'est le moment d'intervenir. Oui, merci Lady Bokako de Mbandaka. On va donner la parole à Maître Olivier d'Ekbadolité. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jeudi, bonjour également à l'invité aussi à tous les invités de la radio Capé.
Voilà, nous savons que dans le nord Ubangi et le sud ont été touchés par les inondations. Est-ce que Badolité également est concerné?
Effectivement, Monsieur Jeudi, Badolité n'était pas épargné. Là, nous avons connu le débordement de la rivière aux alentours de la ville. La rivière, par exemple, la rivière Boui, la rivière Nzekilo a aussi connu le même calme. C'est que, à mon avis, je déplore, c'est que je donne une partie des fautes aussi au service de Padac. Puisque lorsqu'ils ont vendu des parcelles aux alentours de tout ce village qui entoure, de tout ce rivière qui entoure la ville, ils n'ont pas songé à ce que, dans le cas de se dire qu'il ne pouvait plus avoir l'inondation, est-ce que ces gens ne pouvaient pas facilement connaître ces cas? Ils ont vendu des parcelles jusqu'en proximité de tous ces rivières. Et je vous rassure que tous ces gens n'étaient pas épargnés. Ils ont connu une sorte de destruction de biens matériels, voire de maisons. Nous avons connu aussi le même cas dans le village aux alentours. Nous avons tombé, nous voyons des balles, voire côte à côte. Nous avons connu le perte en vie humaine, nous avons connu de maisons emportées, la destruction de certains biens matériels et autres. Mmh. Nous avons même connu des dépenses financières, monsieur Jeudi, puisque quand vous voyagez, l'eau a débordé même jusqu'à la route, vous êtes obligé de dépenser quelque chose pour que les gens du village vous transportent par pirogue pour vous déposer là-dessus. Alors ça pose un problème. Alors,
d'accord, quelle est la question que vous adressez à l'invité? Quelle est la question maintenant que vous adressez à l'invité?
Je voulais juste poser la question à l'invité, c'est quel conseil que l'invité peut facilement donner à la population pour éviter à ce qu'il y ait des épidémies? Parce que lorsque nous constatons qu'il y a une inondation, nous voyons les installations sanitaires de l'outil de douche presque dans l'eau. Je suis sûr que cela va causer des épidémies à la longue. Mais je ne sais pas quel conseil que l'invité peut facilement donner à la population pour essayer un peu de se protéger.
Merci, Maître Olivier d'Ekbadolité. Bien, Monsieur François, vous avez suivi. La situation est presque la même. Un peu partout, on déplore les cas des inondations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Avant de parler de ce qu'il faut faire, je souhaiterais que vous puissiez m'accorder de pouvoir ramasser tout ce qui a été dit par les compatriotes. Je partage sincèrement leurs préoccupations. La difficulté que nous avons, c'est un problème de communication et de moyens. La grande difficulté est que l'espace réservé comme l'intervenant, je crois, de Badoli, de Mbandaka venait de le dire, la recherche est un parent pauvre. Et on ne peut pas aller dans une banque pour obtenir le crédit afin que vous puissiez réaliser les recherches qui, du reste, est d'utilité publique. Prenez l'exemple de la ville de Kinshasa. Nous avons l'espace appelé communément météo. Météorologie, c'est une science capitale pour cette période ici. Mais les gens ont acheté et vous allez trouver ces gens-là avec des titres de propriété en bonne et due forme. Qu'à cela ne tienne, nous avons parlé de la canalisation, donc le drainage. Nous avons l'office de voirie et drainage qui est représenté même au niveau de l'intérieur du pays. Les autorités sont ici, certainement, qui sont en train de suivre, qu'elles sont en train de suivre. La grande préoccupation que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un problème de canalisation. C'est un problème global. Vous allez voir que les agglomérations qui sont représentées par ceux qui venaient de parler n'ont pas les mêmes superficies, n'ont pas la même population non plus. La personne qui a quasiment résumé le tout, c'est Isaac, qui a parlé non seulement des problèmes de l'urbanisation, ça c'est une préoccupation, mais on ne peut pas se leurrer, ce n'est pas aujourd'hui que l'État peut mobiliser tout l'argent pour pouvoir canaliser et urbaniser toute la République. Du reste, c'est un problème de changement climatique. C'est à ces niveaux qu'il y a besoin que nous puissions respecter l'adage qui dit « à chacun son travail ». Et le jardinier ne tombera pas du toit de la maison. Quand l'autorité ne prend pas encore...
Il faut trouver des mesures d'adaptation à ces changements.
D'un côté, les mesures d'adaptation, mais surtout, l'adaptation, ça veut dire que nous devons savoir comment vivre avec. Mais on ne peut pas vivre avec les inondations. Il faut savoir comment évacuer ces inondations. Et dans la prévention, c'est de pouvoir mettre des dispositifs capables de pouvoir recueillir le trop-plein. Et le seul qui peut marcher aujourd'hui, c'est le système des groupes motopompes. Ça sera difficile d'expliquer au cours d'une émission aussi courte. Le principe est très simple. Il faut savoir sécuriser les grandes villes. Et pour sécuriser les grandes villes, il faut avoir un système de captage en amont, de trop-plein des rivières, pour pouvoir les dévier, pour amener à destination là où on va amener dans le projet Voula dans les déserts, qui en ont besoin. Et ça va nous rapporter les moyens, non seulement...
Il y a eu même un projet de transfert des eaux des Lubangui vers le lac Tchad. Et ça le a suscité projet, beaucoup de tollé.
Le projet de Lubangui vers le lac Tchad, j'en ai parlé quand j'étais honoré par votre invitation la fois passée, est déjà enterré. C'est le projet Voula d'exportation des eaux du fleuve Congo vers les déserts d'Afrique. Ça, c'est la solution.
L'exportation par pipeline.
Par pipeline. Mmh. Ça, c'est la solution. Les gens ont besoin de cette eau qui a un trop-plein qui nous détruit ici. Et quand nous parlons de l'urbanisation, c'est question aussi que la population sache. Quand il y a l'eau qui vient, ça ne crée pas nécessairement l'inondation. Ce sont les érosions. Quand il y a une mauvaise urbanisation, ce sont les érosions. Mais l'eau passe. Les eaux qui nous créent des soucis aujourd'hui, ce sont les eaux qui n'arrivent pas à entrer dans le lit de fleuve Congo.
Parce qu'il y a un trop plein.
Il y a un grand volume au niveau du fleuve.
Le fleuve est déjà débordé.
Et le fleuve repousse.
Il ne reçoit plus les eaux.
Pas à la même vitesse.
Oui.
Vous comprenez? C'est ce qui fait, vous allez voir la rivière Lukaya, c'est question d'arriver à Kintsuka parce que nous parlons de la ville de Kinshasa. Ben, c'est ça le problème. Quand on n'a pas, primo, la prévention avec une structure et, comme
météorologique,
nous n'avons pas le respect.
Mais la météo fonctionne toujours, non?
Ben, c'est question de faire un petit coucou à ceux qui sont là-bas. Les câbles, parce que ce n'est pas seulement les hommes. Et encore...
Les équipements, mais tout les ça, équipements, il faut le matériel.
Mais ça n'existe pas parce que tout ce qui a été réservé...
La concession est envahie par des constructions spoliées, tout ça.
Spoliées, et ce sont les autorités qui sont là-bas, on ne peut pas se le cacher.
Oui.
Ça, c'est sur le plan national. C'est la météo qui devait en principe nous donner les éléments. Aujourd'hui, nous sommes obligés de recourir aux résultats des recherches, des études, des Américains par exemple, des Français. C'est pas normal. Parce qu'eux, ils n'ont pas la même préoccupation que nous pour pouvoir financer ces études-là.
Donc on devait initier des projets de recherche scientifique ici, chez nous ou sur place au pays.
Les projets existent. Le problème, c'est l'accès au financement pour permettre à ce que les gens qui ont le projet... Parce que la recherche, c'est quoi? C'est à partir d'un soupçon, c'est à partir d'un constat et qu'il y a un vide. Il faut savoir comment remédier à ça. C'est par là que commence la recherche. Et quand vous avez un projet de pouvoir prouver la raison pour laquelle il y a, par exemple pour le cas actuel, les inondations à l'intérieur du pays, qui n'ont pas la même agglomération que nous ici. Nous avons entendu Isaac parler d'un lac qui déborde. Là-bas, il n'y a pas une agglomération comme à Kinshasa, comme à Kisangani.
Il y a le lac Albert qui il y a débordement de l'autre côté.
Ah ben voilà. Donc là, c'est question de touché. Comprendre pourquoi ça nous arrive. Ça nous arrive seulement parce que toute l'eau de l'Afrique, aujourd'hui, descend chez nous parce que nous avons la forêt. C'est à partir de la photosynthèse, donc la transpiration des arbres quand on les arrose, que la pluie revient.
Et ces inondations, c'est pas encore fini, ça va continuer jusqu'à quand?
Ça va continuer, à notre avis, et après, ça va s'estomper. Et les gens, certainement, vont l'oublier. Mais ça va revenir encore. Et maintenant, on parle des inondations, mais c'est pas encore les inondations prévues par les Américains avec leurs satellites.
Donc
et
ça, ce n'est que les débuts, si
on peut. Ce n'est que les débuts. Et encore, ça, c'est pas le plus grave. Quand les eaux salées viendront ici, non seulement ça va monter pour détruire tout sur leur passage, ben on devrait être aquatique pour pouvoir
vivre.
Donc
vous dites qu'il faut installer des groupes motopompes, des stations de captage. Quand il y a un trop plein, on peut récupérer ces eaux et les envoyer dans les pays désertiques qui en ont besoin.
Pas, du moins, très simple, c'est quoi? C'est de savoir sécuriser.
Avec le projet vous là.
Le très simple, c'est quoi? C'est de savoir sécuriser les agglomérations. Pour pouvoir sécuriser les agglomérations, il faut être en contact avec SICOS, qui a l'atlas de toutes les rivières, des cours d'eau de notre bassin, pas seulement bassin du Congo, il y a le bassin de Sanga, bassin de Lubangi, pour savoir où est-ce qu'on peut mettre à disposition les mécanismes de faire éviter, donc de détourner le trop-plein pour que l'agglomération ne soit pas inondée. Et revenir sur le fleuve. Parce que c'est ça l'objectif final. Mais arriver au fleuve, il faut trouver le point optimum pour amener ça là où ils en ont besoin. Prenons l'exemple très simple. Les gens qui creusent dans les mines le savent très bien. Quand nos trous sont remplis d'eau, on amène les motopompes, on les vide. On ne les vide pas en les renversant dans le trou, on les vide en les envoyant ailleurs. Vous comprenez? C'est le même principe. Nous sommes dans une cuvette. Il faut savoir maintenant comment enlever de chez nous les eaux qui viennent en surplus.
Bien, on va accueillir Dr Anissé Kipassad et Kikuit et Glody de Bandundouville. Comment faire face aux inondations qui affectent certaines régions à travers le pays? Dr Anissé Kipassad, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Okapi Service. Meilleurs vœux aussi. Jody, j'ai bien suivi notre celui qui intervient tout à l'heure là. Il dit des choses vraiment très très pertinentes. Le problème des inondations et tout ce que nous avons comme urgence actuellement, urgence environnementale, ce sont des problèmes que nous avons évoqués depuis des années. Je voudrais revenir seulement à quelques peut-être préoccupations et aussi enrichissements. Je suis d'accord avec lui, parce que quand il dit qu'il faut sécuriser, par exemple, les cours d'eau au niveau de notre pays, je pense que notre pays a eu la bonne volonté de ratifier tous ces accords internationaux, notamment autour des OMD, autour des objectifs du millénaire, même si l'évaluation, quelquefois, a posé de petits problèmes. Mais je reviens sur quelque chose de simple, jeudi. Regardez, est-ce qu'il pense pas que parmi les éléments qui peuvent contribuer à prévenir toutes ces inondations, surtout pour les agglomérations, il faut penser à un panel qui réunit les biologistes, les économistes, les géographes dans notre pays, les environnementalistes, le médecin de santé publique, pour essayer de renforcer les systèmes de l'éducation mésologique. Actuellement, il n'y a aucun coin dans notre pays où on parle de l'éducation. Nous parlons de l'éducation sanitaire, nous parlons d'éducation mésologique, je dis, qui va permettre aux gens d'apprendre comment gérer l'environnement. Je suis à Kikwi, j'étais médecin chef de district. À mon époque, j'avais interdit qu'il y ait des décharges, des déchets usés dans la rivière Kwilu. Mais quand vous allez à Kinshasa, et aujourd'hui encore, les gens déversent tout, à Bandundu, partout là où vous avez cité, à Inongo, les gens déposent tout, tout ce qu'il y a comme décharges, des déchets domestiques dans la rivière. Et ils sont les premiers, après quand il y a les inondations, à crier « Gouvernement, Yakota et Labisoli Kamboyo ». Pourquoi au niveau du partenariat public-privé, on ne renforce pas cet aspect-là? Vous avez, il a parlé des pompes quand il y a les trop-pleins. L'exemple de Katrina à New Orleans, aux États-Unis. Mais nous n'avons pas de moyens de mettre des pompes. Quand il y a eu Katrina, il y a eu des milliers de gens qui sont décédés. Mais tout de suite après, la ville a mis des pompes de façon que s'il s'arrivait encore, on peut essayer de pomper ces eaux. Mais nous ne sommes pas encore là. Faisons les choses les plus simples. Des canaux, par exemple, des canalisations, des eaux dans les villes. Actuellement, à Kikwit, il y a l'OVD qui est en train de travailler pour les canalisations ici en ville, pour essayer de remettre les routes. Qu'est-ce qu'on parte de ces simples systèmes pour essayer de prévenir? Il a parfaitement raison, mais j'insiste sur l'éducation mésologique.
D'accord, merci.
Et tout le monde,
voilà.
qu'on se mette autour d'une table pour ça.
Merci docteur Anissé. Glody, vous êtes à Bandounouville et Fabrice, vous êtes en Bandaka. Ouais. Glody, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux inondations? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ou gérer ces inondations qui affectent beaucoup de régions à travers le pays?
Oui, bonjour messieurs les journalistes, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je pense bien que le sujet d'aujourd'hui est vraiment très pertinent. Ce que l'invité vient de dire, c'est vrai que le gouvernement peut financer. Mais avant que le gouvernement puisse financer, nous devons faire ce que nous appelons l'éco-citoyen, l'éducation à l'écologie. Parce que ici, dans la ville de Bandundu, vous allez se rendre compte que les gens ne respectent pas l'environnement. Donc les gens font de n'importe quoi dans l'environnement et plus tard, ça crée des conséquences. Ce sont toujours les mêmes populations qui crient, qui font des larmes. Non, gouvernement, il faut venir à nous aider parce que non. Ce sont des conséquences que nous-mêmes, que nous faisions. Alors, pour éradiquer, pour du mieux faire ce problème en République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le gouvernement doit sensibiliser d'abord toute la population de la République démocratique du Congo et les éduquer par rapport à l'écologie. Parce que tout ça, ce sont des catastrophes naturelles. Il faut nécessairement associer des géographes, des cartographes, des hydrologues. C'est équiper, contribuer à ce secteur. Parce que aujourd'hui, à notre pays,
oui.
Vous allez se rendre compte que nous, Congolais, on n'a pas vraiment l'éducation écologique.
D'accord, merci. On a retenu votre préoccupation. Il faut renforcer l'éducation environnementale. Fabrice, vous nous appelez de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, chers journalistes, bonjour aux auditeurs de la Radio Kati. Je voulais seulement intervenir. On ne peut pas parler pour parler, mais j'insiste à notre invité qu'il puisse poser des actions. On ne peut pas parler comme ça. Le problème déjà nous arriver. Il faut que cela doive être résolu dans un court terme, parce que sinon il y a aussi des apparitions, des épidémies, ainsi de suite. C'est ça d'ailleurs ma contribution.
Merci. Il faut pas seulement parler. Il y a des inondations. Il faut gérer d'abord ce que nous avons comme problème tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Bien. Je veux déjà féliciter la qualité des auditeurs de Radio Okapi et aussi la qualité des questions et ainsi que le temps que vous nous accordez à tous, que ce soit ceux qui sont de l'autre côté, que ce soit moi-même humble qui suis devant vous. Prenons la situation de notre compatriote de Kikwit. Ben, il a tout dit. Nous avons un principe très simple. On ne sait pas être savant, il faut être intelligent pour bien copier. Ça s'est passé aux États-Unis. Heureusement, il a étayé ce que nous avons dit. La difficulté que nous avons de bons textes. Prenons aujourd'hui, parce qu'il parle de panel. Nous avons le comité.
Mettre en place un comité interdisciplinaire.
Nous avons un comité national d'action de l'eau et de l'assainissement, ce NAEA, qui a pour président le ministre du plan. Je fus, Dieu merci, secrétaire exécutif de ce comité. Nous avons apporté au premier ministre, paix à son âme, Gizenga, qui a immédiatement pris un décret. Mais c'est devenu un petit bureau de 5-6 personnes qui vont tout
sans,
le temps
sans moyens,
voyage.
Il n'y a rien.
Non, 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 ils ont beaucoup
ils
de
ont
moyens.
Ils ont beaucoup de moyens.
Ah, oui.
Mais ils voyagent tout le temps, mais les actions concrètes,
voyages,
il n'y a rien.
Et puis, ceux qui sont nommés, bon, je n'irai pas dans les intentions, mais ça ne se voit pas. Je suis parmi les concepteurs de ce comité national. C'est interministériel, et c'est représenté, ça devrait plutôt être représenté partout dans notre pays. Pour gérer l'assainissement. Ça existe, le décret est là, c'est un petit bureau aujourd'hui. Deuxièmement, le dernier intervenant qui demande à ce que nous puissions agir. Agir aujourd'hui, sincèrement, c'est difficile. Vous êtes déjà dans votre pirogue qui commence à couler, vous n'allez pas chercher à trouver une autre pirogue tout de suite pour pouvoir... vous sauvez parce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté. Vous ne pouvez que crier au secours pour qu'on vienne vous sauver d'abord. Crier au secours, ça veut dire que nos autorités aujourd'hui voient dans quelle mesure financer les études, financer les recherches. Nous avons beaucoup.
Comment est-ce qu'on va financer les recherches alors que, comme le disait le dernier auditeur, on a des cas, les gens sont inondés. Maintenant, il faut les aider, il faut intervenir.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est vrai. Mais vous n'allez pas intervenir de la même façon partout. Parce que les autorités dont nous parlons, ils sont à Kinshasa. La décentralisation, j'estime que les gouverneurs ont des moyens de pouvoir prendre des mesures d'urgence. Mais on ne peut pas se leurrer. C'est un problème des moyens. Il y a un problème, quelque chose de très important que l'intervenant de Kikuta a dit. Nous avons aujourd'hui des traités qui sont signés. L'accord de Paris nous donne la possibilité, dans le cas de changement climatique, d'engager beaucoup, beaucoup de financement. Mais on n'a pas le moyen de pouvoir accéder à cet argent. Cet argent pouvait aussi permettre à ce que nous puissions amener aujourd'hui, non seulement à évacuer les eaux, c'est l'unique solution. Je suis désolé.
Docteur Kipas a dit une chose, acheter les motopompes, ça demande un gros budget. Peut-être qu'on n'en est pas encore là, mais il faut des moyens plus simples pour faire face aux inondations.
On peut saisir cette opportunité de difficulté, du moins cette difficulté, et le transformer en opportunité. Les gens sont en difficulté. Moi-même qui vous parle, nous sommes en difficulté à Kasangulu, la rivière Lukaya est débordée. Vous n'allez pas aujourd'hui nous dire qu'il y a une solution, à moins que vous soyez menteur. En tout cas, je ne suis pas de cette race. La difficulté est à quel niveau? C'est au niveau de la prise en charge. Cette prise en charge, on ne doit pas faire quelque chose en urgence, c'est vrai, pour pallier au plus pressé. Au niveau local, les autorités peuvent d'abord réfléchir par rapport aux besoins réels. Il y a ceux qui parlent de la canalisation. On ne viendra pas curer une avenue que nous avons à Kinshasa ici pour pouvoir évacuer ces eaux-là. Il n'y a même pas de combinaisons appropriées pour que les personnes entrent dans ces eaux usées. Passez au niveau de Matete. Vous allez voir qu'à l'époque coloniale, on nous a laissé deux petits caniveaux. C'est vrai que c'était dimensionné par rapport à la population de l'époque. Mais il y avait une canalisation pour les eaux de pluie et une canalisation pour les eaux...
Les eaux usées, les eaux qui proviennent des maisons.
Des ménages.
Des ménages, oui.
Alors, c'était pas la même destination. C'était pas la même destination, mais aujourd'hui, vous allez voir les caniveaux, c'est seulement 2 mètres seulement pour vous dire, voilà le vestige. C'est un travail de fond qu'il faudra faire. Et avant de le faire, vaut mieux savoir comment le faire et où le faire. Raison pour laquelle on revient sur le panel. Donc, ce n'est pas les mêmes préoccupations, ce n'est pas les mêmes propositions de solutions. Il faudra que chaque coin du pays puisse amener ses préoccupations, ses réalités au niveau de ce panel-là. on peut pas le faire aujourd'hui, je suis désolé, mais on peut obtenir à ce que, primo, tout ce qui est financement qui vient dans le cadre de l'environnement soit publié. Que ceux qui ont des projets puissent apporter leurs projets. La difficulté aussi, c'est que vous venez avec un projet, on dit que c'est pas bancable. Qu'on mette à disposition un bureau où l'État va payer ces gens-là. Parce que le financement, ce ne sera pas l'État. Mais il faut que le projet soit bancable. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, mais peut vous amener un projet, c'est à vous maintenant de rendre ça bancable pour que le financement puisse sortir et réaliser ce qui est prévu là-dedans.
Mais on voit
Tant qu'on ne le fera pas,
oui.
On sera toujours en train de courir derrière les évidences qu'on pouvait éviter.
On voit par exemple dans certains pays, quand il y a des urgences humanitaires, il y a toute une équipe, une brigade qui est mobilisée, chargée de secourir ceux qui sont les sinistrés. Est-ce que dans notre pays, on a également ces genres de services avec des volontaires qui sont là pour secourir ceux qui sont dans le besoin?
J'ai suivi avec intérêt la délégation des députés provinciaux de Sud et Nord Oubangui qui sont venus à Kinshasa pour solliciter de l'aide. J'ai parlé du député de Kingaboa, pour ne pas le citer, Jekoko, qui est allé voir le chef de l'État. Tous ces gens-là ne nous ont pas dit quelle a été la réponse de l'autorité. Je suis mal placé pour constater avec vous qu'il y a une difficulté dans notre pays. Parce que il y a un ministère humanitaire. Ça, c'est un cas humanitaire qui se présente à nous. Ben, est-ce qu'il y a un budget pour ça? Est-ce qu'il y a une politique pour ça? Est-ce qu'on a déjà cherché à collecter les informations au niveau de la base pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'intervention soit vraiment, puisse répondre aux besoins? C'est là où se trouve la difficulté.
Bien, on va accueillir Benjamin de Kananga et Malonga de Bandunduville. Comment faire face aux inondations qui touchent plusieurs parties du pays? Benjamin de Kananga, bonjour. On vous entend difficilement, parler un peu plus fort. Quelle est la question que vous adressez à l'invité par rapport aux inondations?
Donc, bon, ce n'est pas toute une question, mais c'était au moins une petite contribution. Monsieur Jody, mon propos...
La communication est difficile. On va prendre Malonga à des bandes de ville. Bonjour Malonga.
Oui, bonjour Jody, merci à tous, à l'équipe de la Radio Capi.
Merci. Quelle est votre préoccupation par rapport aux inondations?
Bon, en tout cas, je dis l'invité à dire. Les inondations resteront toujours comme ça. Puisque depuis le Lige jusqu'à ce jour, et jusqu'à le jour où ils viendront, les inondations seront toujours là. Mais c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit prendre vraiment les dispositions. Je dis, je veux vous dire que si nous souffrons aujourd'hui, c'est l'État qui est responsable. Si l'État décide à n'importe quelle circonstance qui arrive, la solution sera là. Raison pour laquelle je dis que à César et à Dieu à Dieu. Nous ne pouvons pas inviter Dieu là où l'État est capable de faire quelque chose. Je veux vous dire aussi, ici chez vous, ici à Bandunduville, il y avait une situation vraiment criminelle de Kouloune, que nous avions déjà évité de circuler de cette fois. Mais lorsque l'armée et l'État décidé, aujourd'hui nous sommes devenus libres, s'il vous plaît. Et toute la population commence à dire que vous voyez, c'est l'État qui fait assez que nous souffrons. C'est comme les causes des inondations. Les inondations, le service libanais est là. Il sait que comment est-ce qu'il peut déguerpir toute la population qui construit au bord des rivières, au bord des lacs, au bord de là où, si la rivière inonde, ça peut arriver là-bas.
D'accord, d'accord, Malonga, merci. On n'a plus beaucoup de temps. On va donner la parole à notre invité pour conclure, Monsieur François Kalul. Faut-il déloger tout ce qui ont construit les longs des rivières, les longs des lacs, en suivant ce que Malonga vient de nous dire?
Bien, je crois qu'il y a la cartographie de notre pays. On l'a trouvée aussi au Musée Royal des Terres Vuraines. Je suis désolé, on parle des autres. Et pourtant, nous avons aussi l'Institut géographique ici qui parle des zones inondables. En principe, le cadastre ne pouvait pas accorder à ce qu'on puisse attribuer aux compatriotes ces espaces pour pouvoir construire. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a besoin aujourd'hui de pouvoir anticiper sur ce qui va arriver. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas encore 2% de ce qui va arriver.
Ce n'est que le début.
Ce n'est que le début. C'est question maintenant de prendre conscience pour que chacun de nous, à son niveau, puisse voir qu'est-ce que nous devons faire pour que l'autorité soit sensible. Et cette sensibilité, c'est par rapport aux besoins de chaque entité. On ne peut pas laisser que l'autorité prenne une solution pour tout le monde de la même façon. Ce n'est pas les mêmes préoccupations, c'est ce que j'ai dit.
Donc d'où le besoin de mettre en place ces comités interdisciplinaires.
Interdisciplinaires, pour ne pas parler de redynamiser le comité national d'action de l'eau et de l'assainissement. Ce comité existe, les textes sont là. Nous avons aussi l'avantage d'avoir le projet Voula. Le projet Voula, c'est pour maintenant sécuriser la ville de Kinshasa. Parce que quand...
C'est un projet d'exportation de...
Pas seulement d'exportation.
Des eaux.
Pas seulement d'exportation, ça c'est la finalité. Dans le projet Voula, il y a la sécurisation des villes par rapport à la montée des eaux internes. Nous avons l'obligation de prévenir. Pour prévenir, il y a besoin de trouver l'argent.
Un système d'alerte.
Nous avons besoin d'argent. Et cet argent existe par le fait que nous avons la forêt. Et l'argent en question existe. Les moyens pour y accéder est difficile.
D'accord. On aura l'occasion de revenir là-dessus, Monsieur François Kalule et Voula. Je rappelle que vous êtes promoteur du Centre des recherches, d'études et des préventions des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.